qui va rester avec nous longtemps. C'est pas la physique. Bon, la physique, c'est si on a une grosse douleur, ok? Mais je parle des petites sensations là de tous les jours. La psychologique, c'est elle qui va, ou elle va nous démolir, ou alors elle va nous égayer, ou elle va nous transformer. Puis quand il y a la sensation, notre perception change. On a une sensation et on a une perception. Et alors, ces sensations, une sensation qui peut être bonne pour vous, elle peut être très mauvaise pour moi. Disons que en plein juillet, il fasse 33 degrés. On crève de chaleur. Alors, moi, je ne suis pas née au Canada. Je suis née au Maroc. Et en été, il fait très chaud. Alors, ce plus 33-là, je l'adore parce que, c'est moi. Mais quand je parle à mes amis ici, québécois, maudit, c'est insupportable cette chaleur-là. OK? Alors, ce qui fait votre bonheur, fait mon malheur. Ce qui fait mon malheur, fait votre bonheur. Et puis, la perception change l'état d'esprit, inévitablement. Et l'état d'esprit, alors là, c'est écrit les sensations. Les réactions changent. D'après ce que l'on a perçu, on va avoir certaines réactions. Et après ces réactions-là, les pensées changent. Toutes nos pensées changent. Alors tout ça, ça commence par juste par quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu. Et si je n'ai pas de pleine conscience, ça peut être très gros, ça peut m'envahir sans que je m'en aperçoive. Alors pourquoi on fait de la méditation et pourquoi on vient ici pour pratiquer? Nos réactions changent, c'est écrit, Marie. C'est écrit, nos réactions changent. Pourquoi on vient ici? Pour faire un équilibre entre tout ça. Pour prendre conscience de ce qui me fait monter, descendre, tout ça, continuellement. Pour apprendre à observer, regarder et à reconnaître pourquoi je suis de mauvaise humeur, pourquoi je me sens bien. Et aussi, quand tout à l'heure on disait à la méditation guidée, quand la sensation est agréable, on veut rester dans cette sensation-là. On veut que ça dure toujours. C'est ça, le bonheur, finalement. On veut que ça dure toujours. Mais il y a l'impermanence aussi. Ça ne dure pas toujours. Quand c'est désagréable, on veut s'en défaire tout de suite. Et on a des jugements avec ça. Je ne veux plus que ça m'arrive. Je déteste quand ça m'arrive. Et on fait notre petit nid. On se fraye un chemin dans la vie. On évite ce qu'on n'aime pas. On veut rester dans ce qu'on aime. Mais comme la vie est impermanente et aussi interdépendante, comme tout est interdépendant, et que tout ça va arriver inévitablement et que tout ça va finir inévitablement, alors nous, c'est comme si on a un gouvernail et on essaye de voguer à travers tout ça. On essaye de rendre notre vie plus légère et moins pesante à cause des sensations. Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher. Je ne cherchais pas la pleine conscience, je ne savais pas ce que c'était. Je commençais à chercher du calme. Alors j'ai commencé avec la musique Nouvel Âge. Je ne savais pas comment me diriger. Alors c'était juste de la musique douce, Nouvel Âge. Ça me calmait. Et puis après, j'avais vu une exposition de bonsaï au jardin botanique. Et alors les bonsaïs, le jardin zen. Ah, ça, c'était bien. Alors, ça aussi, ça me calmait. Et ça m'a tout doucement, ça m'a amené au bouddhisme. D'abord, ça m'a amené à la méditation, qui m'a amené au bouddhisme. Et là, on apprend, avec le zen, que la vie se passe ici et maintenant. Que tout va changer, que rien ne dure, et que juste l'instant présent est important. Et c'est seulement l'instant présent qui va nous permettre de poursuivre et de faire face à tout ce qui nous arrive. On a beaucoup de choses à faire. Le train-train quotidien nous emporte. Et vous êtes venus ici pour passer une journée de pleine conscience. Nous, on vient depuis 15, 16 ans déjà. Et ça nous aide. On ne dit pas qu'on est parfait. On n'est pas parfait. Mais grâce à la pleine conscience et grâce à la pratique de cette pratique, que ça se passe ici et maintenant. Tout à l'heure, on l'a vu dans la méditation, la sensation de ce matin, c'est tellement loin déjà. Le café, je vais le retrouver en descendant. Mais si je descends à 7 heures ou à minuit, bon, ça va être fermé, je ne vais plus l'avoir. Mais chaque fois que je viens, je vais le retrouver. Mais toutes les autres sensations, l'année dernière, il y a un mois, toutes ces sensations-là sont passées. Alors, on veut retrouver ce qu'on vit maintenant et rester solide avec ça. C'est-à-dire ne pas se laisser démolir, envahir, dominer. Les sensations peuvent nous dominer. Elles nous dominent, elles peuvent nous dominer. Mais si on pratique, si on revient tout le temps à ce que je fais maintenant, alors on va pouvoir surmonter tout cela. Et une journée de pleine conscience, ça sert à ça. Nous venons ici pour méditer le lundi soir, le mercredi soir. On se retrouve pendant 2 heures. On retourne à la maison et on a notre pratique avec nous. Une journée de pleine conscience, c'est fait exprès pour mettre tout cela ensemble. C'est comme tout un paquet. On va faire de la méditation ensemble. On va prendre un café ensemble, un biscuit. On va aller aux toilettes. On va vivre ensemble cette journée. On va écouter ensemble. On va manger en silence ensemble. On va échanger. On va avoir des partages tout à l'heure, cet après-midi, où on va pouvoir parler. On va pouvoir s'exprimer. Et on va avoir de la relaxation totale. Et on va faire la marche méditative à l'extérieur. Il fait tellement beau dehors. Alors, c'est un condensé de notre vie de tous les jours. Demain, vous serez tout seul. Vous allez au travail. L'enseignement, ce sera la vie. Ce sera votre boss. Ce sera ce que vous allez voir au bureau. Ça va être ça, votre enseignement. Le repas en pleine conscience, vous pouvez l'avoir. Les toilettes en pleine conscience, vous pouvez le faire. La marche méditative, vous pouvez la faire dans les couloirs, n'importe où vous êtes. La relaxation totale, pourquoi pas, sous votre bureau, vous mettez un petit tapis et vous restez là pendant 5 minutes, 10 minutes. Tout est possible. Alors, la journée de pleine conscience, c'est tous les jours. On peut le faire tous les jours. Pas nécessaire d'attendre une fois par mois pour avoir une pratique de pleine conscience. Alors, je crois que l'enseignant veut parler derrière moi. Est-ce que Chen Hui veut parler? Et il va vous dire, il est au Vietnam et il a toutes sortes de sensations différentes d'ici, mais similaires aussi.
Donc, bonjour et merci de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Il est 11h du soir ici au Vietnam. Je suis à Saigon maintenant, Ho Chi Minh Ville. Hier, j'ai donné cet enseignement d'aujourd'hui en anglais aux communautés américaines. Aujourd'hui, ça m'a... Avec la vidéo, j'ai pu voir Lily et l'entendre. Et je suis très, très heureux d'avoir pu, comment on dit, d'avoir pu écouter, entendre ce que vous avez entendu et appris. Et je suis très, très content d'avoir pu le faire et je suis content pour vous d'avoir Lily avec vous comme enseignante. C'est dommage qu'elle n'ait pas donné cette partie-là en anglais, mais c'est une partie remise parce que le mois prochain, elle va le faire avec moi pour les sanghas américaines aussi. Donc, hier, ce que j'avais mentionné, c'est que cette pratique que nous sommes en train d'apprendre ensemble, la pratique de la méditation en pleine conscience, est basée sur cet enseignement, est basée sur ce sutra. Le sutra de Satipatthana Sutra, la traduction, les quatre fondements de la pleine conscience. Nous avons, au début de l'année, appris et pratiqué la pleine conscience du corps, dans le corps. Et nous poursuivons maintenant avec la deuxième fondation, les sensations. Les sensations sont pour moi la base la plus importante, parce que c'est à partir des sensations que tout se précipite et tout se passe. Parce que Lily vous a parlé des 12 chaînons, the 12 links of, des 12 chaînons. Elle a commencé par vous parler des sens. Les 5 sens et la base des sens et le contact entre l'objet, etc. Si ça s'arrêtait là, on n'aurait pas de problème. Le problème arrive après, lorsqu'il y a des sensations. Et s'il n'y avait seulement que des sensations, ce ne serait pas trop pire non plus. Mais les sensations génèrent des idées, génèrent des réactions. Et c'est ça qui nous conditionne, et c'est ça qui fait qu'on devient ce qu'on est devenu, et c'est comme ça que nous bâtissons notre bonheur, et c'est comme ça aussi que nous fabriquons nos souffrances. Au début de l'année, je vous avais parlé des 5 obstacles à la pratique, et je vous ai invité à les identifier et à les mesurer pour pouvoir au cours de l'année voir comment cette pratique et cet apprentissage des 4 fondements de l'attention peuvent nous aider chacun à nous améliorer et comment est-ce que nous pouvons mesurer notre succès ou l'amélioration ou notre amélioration, nos progrès. En nous mesurant à travers ou en mesurant les obstacles que nous avons identifiés au début de l'année. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le faire, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais ce n'est pas trop tard et vous pouvez peut-être les faire après cette journée ou cet après-midi. Les sensations. Comment est-ce que nous pratiquons la pleine conscience des sensations? De la même façon que nous pratiquons la pleine conscience de la respiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'inspire et je suis conscient du début de mon inspiration. J'inspire et mon inspiration se poursuit et je maintiens mon attention avec mon inspiration et mon expiration tout au long de l'inspiration, tout au long de l'expiration. C'est comme ça que nous avons pratiqué la pratique de la respiration consciente. Je vous avais mentionné que la méditation, c'est la capacité que nous avons à être présent avec ce qui est en train de se passer du début jusqu'à la fin sans discontinuer de façon continue. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience et la respiration, nous portons attention et nous attachons notre attention à toute notre inspiration et à toute notre respiration. Avec cette pratique que nous avons, c'est-à-dire cette capacité que nous avons développée à attacher notre attention au sujet de l'observation. Le sujet de l'observation ou le sujet de la méditation ou l'objet de la méditation que nous avons choisi pour pratiquer la respiration consciente, c'est notre respiration. Et lorsque nous pratiquons la pleine conscience de la respiration, nous avons développé cette capacité de nous concentrer et de rattacher notre pleine attention à toute notre respiration, du début d'une inspiration jusqu'à la fin d'une inspiration. Nous continuons à être avec notre respiration et nous observons comment cette inspiration devient une inspiration, etc. Nous avons compté les respirations. J'inspire, je compte 1, j'expire, je compte 1, j'inspire, je compte 2, j'expire, je compte 2, et ainsi de suite. Et nous avons pu mesurer notre capacité à nous concentrer sur 1, 2, 3, 5 ou 10 respirations consécutives, sans nous laisser distraire par d'autres pensées ou par d'autres sujets de distraction. Lorsque nous pratiquons la respiration consciente, nous voyons que notre attention, avec notre attention, nous voyons comment nos respirations se succèdent, comment une inspiration devient une expiration, comment une expiration ne peut se poursuivre indéfiniment et doit commencer être la durée, le temps d'une inspiration et se terminer. Il n'y a pas d'inspiration qui peut durer plus longtemps qu'une inspiration. Il n'y a pas d'inspiration qui peut ne pas commencer, perdurer et s'éteindre et se terminer. Et de la même façon, les sensations. Il n'y a aucune sensation qui est permanente. Elle commence à un certain moment donné. Elle se manifeste. Elle grandit. Elle dure un instant. Des fois, trop longtemps. Des fois, pas assez longtemps. Et elle finit toujours par finir. Alors, la pratique de l'attention aux sensations, c'est d'utiliser la capacité que nous avons développée avec notre pratique de respiration consciente et d'apporter notre attention aux sensations qui nous habite. J'inspire et je suis conscient qu'il y a une sensation qui vient de naître. J'inspire et je suis conscient que cette sensation que je viens de reconnaître est en train de grandir. J'inspire et je suis conscient que cette sensation est en train d'augmenter, etc. Et nous continuons d'attacher notre attention à la sensation dès l'instant où elle commence à naître. Nous suivons sa progression, nous restons avec elle le temps qu'elle dure et nous observons sa disparition graduelle et final. Et une fois qu'une sensation se termine, de la même façon qu'une inspiration s'est terminée, il y a une autre sensation qui suit. Les sensations se succèdent de la même façon que l'inspiration et l'expiration. Et nous parlons alors d'une rivière. Une rivière de sensations où chaque sensation est comme une goutte d'eau. Les gouttes d'eau qui se succèdent, qui se suivent, et les gouttes d'eau qui se supportent et se soutiennent ensemble pour pouvoir couler dans cette prière et le travail que nous faisons, le travail d'observation des sensations, c'est d'être là sur la rive, sur la berge de la rivière et regarder les sensations qui passent. Pourquoi nous voulons faire cela? Ce serait peut-être un bon sujet de discussion si vous voulez le faire durant la discussion de cet après-midi. Et finalement, c'est la question que nous nous posons chaque jour. Et surtout, nous nous posons lorsque nous assistons à une journée de pleine conscience. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je participe à cette journée? Pourquoi je veux pratiquer la méditation? Etc. Et qu'est-ce que ça a à faire, l'observation des sensations avec la pratique de la méditation, avec ce que je recherche avec la pratique de la méditation. Alors, dépendamment des raisons qui vous ont motivé à être là aujourd'hui, je voudrais vous proposer une réponse. Relativement heureux. Je pourrais être plus heureux, je pourrais être moins heureux. Ce que je recherche, c'est de pouvoir comprendre. De pouvoir comprendre comment faire pour être moins malheureux, pour pouvoir être un peu plus heureux, pour pouvoir rendre les personnes autour de moi un peu plus heureuses ou un peu moins souffrantes. Comment est-ce que je peux faire cela? Je peux faire cela en comprenant, par la compréhension des choses, par la compréhension des causes et des raisons et des conditions de notre malheur et de nos malheurs et de notre bonheur. La compréhension, c'est ce que nous voulons développer. Et la pratique de la méditation, l'observation du corps, l'observation des sensations, l'observation de l'esprit et des objets de l'esprit, sont des outils, sont des techniques qui nous permettent de pouvoir nous arrêter, qui nous permettent de pouvoir observer, regarder, identifier, calmer, comprendre et nous libérer. Alors, observer les sensations n'est pas une fin en soi. Nous observons les sensations pour pratiquer. De la même façon que nous avons pratiqué la respiration de la pleine conscience, la respiration consciente pour développer notre capacité de pouvoir nous concentrer sur notre respiration, Et maintenant, nous utilisons ce pouvoir ou cette capacité de nous concentrer, cette capacité que nous avons de pouvoir observer et de nous concentrer sur un objet d'observation. Nous utilisons maintenant cette capacité pour pouvoir observer les sensations. Alors, observer les sensations n'est pas une fin non plus. Observer les sensations, c'est également un exercice qui nous permet de pouvoir développer encore davantage notre concentration et notre capacité d'observation pour pouvoir mieux voir et comprendre. Comprendre comment les choses se passent, comprendre d'où les choses viennent, proviennent, quelles sont les causes et les racines et les conditions qui font que certaines choses arrivent. Et cette fois-ci, la chose que nous observons, ce sont les sensations. Je vous ai dit un peu plus tôt que ce n'est pas une fin en soi et que c'est un moyen de pratique pour développer davantage notre capacité de concentration et d'observation. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen, mais c'est aussi mais nous pouvons aussi l'utiliser comme une fin pour pouvoir nous motiver, pour pouvoir nous encourager. Parce que cette observation des sensations, en plus de nous procurer les effets que je viens de mentionner, c'est-à-dire cette meilleure capacité ou une meilleure capacité de concentration pour pouvoir mieux comprendre. En même temps que ça, que nous développons cette capacité, l'observation nous permet déjà d'avoir des indices et des mini-éveils. Et ce sont ces mi-éveils qui sont le prix ou notre récompense intermédiaire de pratique qui nous permet, qui nous encourage sur ce chemin. Alors donc, lorsque nous nous observons les sensations, nous commençons par les identifier. Nous sommes à moins d'être complètement gelés, sous ou morts, nous sommes soumis à des sensations de façon continue. Je vous ai parlé de la rivière des sensations et la rivière ne cesse pas de couler. La rivière coule du matin au soir. Même pendant que nous dormons, il y a toujours des sensations. Comme exercice, vous pouvez peut-être déjà identifier les sensations qui sont présentes maintenant pendant que vous êtes assis à m'écouter. Je peux vous dire qu'il y a peut-être 3 milliers de sensations qui sont en train de se passer en vous présentement. Et la pleine conscience que nous voulons développer, c'est de pouvoir être en contact ou bien identifier et suivre chacune de ces sensations qui sont en train de vous habiter, de nous habiter. Alors, je ne sais pas si vous pouvez tenter d'identifier une sensation qui est en train de se passer en vous. Vous pouvez l'identifier et la qualifier. La sensation que vous avez identifiée, est-ce qu'elle est plaisante ou déplaisante? Est-ce que vous aimez la sensation ou est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous voulez la garder avec vous? Est-ce que vous voulez la faire grandir? Ou est-ce que vous voulez qu'elle s'en aille? Et juste observer ces sensations, ou chacune des sensations, ou la sensation que vous avez choisi d'observer, peut vous permettre de pouvoir reconnaître beaucoup de choses. La première chose que nous pouvons reconnaître peut-être, c'est que les sensations sont soumises au même principe d'impermanence. C'est qu'elle n'était pas là hier, elle n'était pas là avant qu'on s'en aperçoive. Elle est apparue, elle dure un moment et elle va s'en aller. Et c'est bon de nous le rappeler, de nous rappeler la permanence et que la sensation que nous sommes en train d'observer n'est pas la seule qui est impermanente, mais que toutes les sensations sont impermanentes. Et lorsque nous sommes en prise avec une sensation déplaisante, de ne pas trop paniquer ou de ne pas trop s'en faire parce que nous savons qu'elle est impermanente et que ça va finir par finir. Et de la même façon, lorsqu'une sensation agréable est là, de ne pas trop s'y attacher parce qu'on sait qu'elle est impermanente et qu'elle va aussi finir par s'en aller. Et de ne pas trop être découragé lorsqu'elle va être partie. Alors c'est le genre de leçon ou d'insight ou d'intelligence ou de sagesse que nous pouvons apprendre ou développer ou renforcer juste avec l'observation des sensations pour reconnaître leur impermanence. Nous pouvons aussi y voir l'interdépendance. Une sensation ne peut pas être ou exister sans que tout le reste existe aussi en même temps. Une sensation ne peut pas tomber du ciel. Une sensation dépend de toutes les conditions qui sont là afin de pouvoir se manifester. Elle dépend de la sensation qui a précédé. Son existence dépend de toutes les conditions qui doivent être là pour pouvoir la garder là. Et elle se transforme. Elle se transforme en fonction encore là de toutes les conditions qui sont présentes. Elles sont aussi dépendantes de beaucoup de conditions. Qui des fois ne nous appartiennent pas, ou qui souvent, ou qui d'habitude ne nous appartiennent pas. On parle de sensations. Les sensations que nous procure un exemple de sensation que nous pouvons regarder, le goût d'une boisson alcoolisée. Lorsque nous prenons une gorgée de, de whisky ou de scotch ou de cognac. Il y a beaucoup de sensations qui se passent. Et pour certains, c'est une expérience très plaisante. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est insupportable. Si quelqu'un n'est pas habitué à prendre de l'alcool fort et sec, elle va s'étouffer, elle va tousser, donc ça va être quelque chose qui va être très désagréable. Un connaisseur va déguster et va y trouver beaucoup de plaisir. C'est le même alcool, c'est la même composition, c'est la même chimie. Ça rencontre notre palais et ça fait exactement les mêmes réactions. Sauf que les réactions peuvent procurer un plaisir ou peuvent procurer une souffrance. Ça dépend de la culture, ça dépend de l'éducation, ça dépend des connaissances, ça dépend de beaucoup de conditions pour qu'une telle sensation existe. Et toutes les conditions peuvent, dépendamment de l'expérience et de la position et de la culture et de toutes les autres caractéristiques de chaque personne, faire en sorte que les mêmes événements, les mêmes activités, les mêmes stimuli créent des réponses différentes. Il y a aussi, lorsqu'on a parlé du plaisir et des désirs sensuels, l'exemple des lépreux qui doivent se chauffer, qui doivent chauffer leurs blessures autour d'un feu pour pouvoir soulager leur démangeaisons. Alors c'est une image qui nous provient d'un sutra bouddhiste où le Bouddha a identifié ou a comparé les désirs sensuels et les plaisirs charnels en donnant l'image de ces villages de lépreux. Donc c'est du monde qui sont atteints de la lèpre et qui doivent être isolés pour ne pas contaminer les autres personnes, et ils sont ensemble. Et dans le temps, comme ils n'avaient pas de traitement, leurs doigts, leurs membres tombaient un à un. Mais il paraît que lorsque la lèpre nous attaque, que ça nous démange et ça nous gratte, et lorsqu'on essaie de se soulager en se grattant, on peut se gratter jusqu'à perdre la peau, et plus on se gratte et plus ça démange. Et la façon dont les lépreux, une des façons que les lépreux utilisent pour pouvoir soulager leur démangeaison, c'est de faire un gros feu et d'exposer leur blessure à ce feu, et la chaleur peuvent leur procurer une espèce de réconfort ou bien un soulagement de leur démangeaison. Les lépreux y trouvent beaucoup de réconfort ou de confort, mais si nous n'avons pas la lèpre et que nous exposons de la même façon au feu, nous ne pouvons pas supporter la chaleur. Alors la même chaleur est une source de confort et de soulagement pour les lépreux, Et pour les personnes qui n'ont pas la lettre, ça devient quelque chose qui est insupportable parce que c'est trop chaud. Donc, c'est comprendre la sensation, la qualifier selon les catégories de sensations plaisantes, déplaisantes ou neutres. Comprendre pourquoi ou qu'est-ce qui fait que cette sensation que nous sommes en train d'expérimenter et d'observer, qu'est-ce qui fait que nous considérons ou que nous la considérons comme plaisante, qu'est-ce qui fait qu'elle nous est déplaisante, et comment faire pour pouvoir comprendre les conditions qui se mettent ensemble pour faire d'une sensation une sensation plaisante ou une sensation déplaisante. Comprendre l'impermanence, comprendre l'interdépendance pour pouvoir nous libérer de nos sensations. Nous libérer des sensations par la compréhension. Ne pas être accroché aux sensations plaisantes, à essayer de les rechercher et de les retenir et les maintenir. Comprendre notre aversion et notre rejet, notre dégoût ou nos tendances à nous éloigner des sensations déplaisantes ou à les camoufler. Comprendre ces réactions, comprendre que nous avons été conditionnés à rechercher les conditions de confort et de sécurité et à nous éloigner et à rejeter les conditions déplaisantes. Afin de pouvoir réaliser que c'est cette tendance que nous avons à fuir l'inconfort et à rechercher le confort qui nous ont amenés à notre situation actuelle, que nous voulons comprendre et changer avec cette pratique. Et c'est pour ça que le deuxième fondement de l'attention, l'observation des sensations dans les sensations, est une pratique cruciale et essentielle pour notre compréhension et pour notre éveil. D'ici notre éveil ensemble, nous pouvons pratiquer un exercice ou une pratique que j'aime beaucoup. C'est la pratique je ne sais pas comment traduire ça. En anglais, hier, j'avais mentionné la pratique du non-tooth-ache. Nous savons que, parce que nous l'avons déjà expérimenté, qu'un mal de dents est quelque chose qui est inconfortable, insupportable, et que nous n'affectionnons pas du tout et que nous ne voulons pas recherché et que lorsque ça nous arrive, qu'on voudrait tout faire pour que ça arrête. Et lorsque ça arrête après une nuit de mal de dents, et que le mal de dents arrête parce qu'on a pu obtenir une prescription et on a pu prendre des pilules, et que le mal et que ça nous libère du mal, on est soulagé et on est content. On est heureux. Mais on n'est pas content très longtemps, on n'est pas heureux très longtemps parce qu'on oublie. On oublie qu'une dent qui ne fait pas mal est une source de bonheur. Et on ne s'en rappelle que lorsqu'elle nous fait mal. Et de la même façon, tout ce que nous avons présentement et qui va bien, nous avons tendance à les ignorer, à les oublier. Nos yeux qui nous permettent de pouvoir voir le beau soleil dehors, nos yeux qui nous permettent de pouvoir voir les yeux des personnes que nous aimons, les oreilles qui nous permettent de pouvoir entendre les belles mélodies et les belles chansons, toutes ces conditions essentielles à notre survie, à notre vie et à notre bonheur et qui sont en train de se passer sont qualifiées comme sensations neutres. Et lorsque nous pouvons être en contact et toucher ces conditions de notre bonheur, ces sensations que nous ignorons, ces choses que nous avons oubliées, deviennent vivantes et se transforment en sensations plaisantes. En général, nous oublions les conditions de notre bonheur jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et lorsqu'elles disparaissent, c'est là qu'on s'aperçoit où c'est là qu'on se rend compte de leur nécessité et de notre besoin qu'elles soient là. Mais tout le temps où elles étaient là, nous n'étions pas avec. Et c'est comme si ces conditions-là n'existaient pas. Alors donc, la pratique que je vous propose, la pratique que j'aime, que j'affectionne et que j'essaie de me rappeler, c'est de cultiver les sensations neutres, de reconnaître les sensations neutres, d'y reconnaître les conditions de mon bonheur, les conditions essentielles de mon bonheur, de les cultiver et de me nourrir avec, de me rappeler que les dents que j'ai et qui ne me font pas mal, sont une grande source de joie. Alors la pratique des sensations peut être une grande source de bonheur si nous savons comment faire pour transformer les sensations neutres en sensations plaisantes et nous nourrir de ces sensations plaisantes. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait parler ou continuer de parler pour les sensations. Je pense que je vais arrêter ici pour vous laisser continuer la journée. Et je vous souhaite une très bonne pratique de non-mal de dents. Il est minuit moins 10 et je vous souhaite une belle journée et je me souhaite une bonne nuit. Hier soir, j'ai fini à 1h. Aujourd'hui, c'est un peu rapide.